Bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc comme sujet aujourd'hui « Vivre selon la volonté de Dieu ». On parle beaucoup, et j'ai remarqué dans nos églises évangéliques, de protestantes évangéliques, j'ai remarqué qu'on parle souvent de la volonté de Dieu, mais parfois d'une manière un petit peu étrange, enfin, d'une manière qui n'est pas forcément conforme à ce que dit la Bible. Pourtant, la Bible parle sur ce sujet souvent et de manière assez claire. Et comme vous le savez, la Bible est notre fondement pour toute notre croyance. Dieu a exprimé sa volonté suprême d'une manière relativement claire pour que ses enfants puissent la comprendre. La volonté de Dieu pour le chrétien est l'un des sujets les plus importants de toute la Bible. Les textes que nous avons lus tout à l'heure, qui ont été lus il y a un instant, nous le montrent bien. Dieu a le souci que ses enfants apprennent à faire sa volonté. Le texte de Matthieu 7, 21-23, qui est sous nos yeux, révèle d'une manière très claire et même parfois solennelle que le fait qu'un grand nombre de chrétiens, ou prétendus tels, courent le risque de ne jamais entrer dans le royaume de Dieu s'ils commettent l'erreur tragique de penser que le seul fait de venir à l'Église, le seul fait peut-être même de s'être converti un jour, le seul fait d'avoir donné leur vie à Jésus, d'avoir confessé leurs péchés, suffit à leur donner le droit à la vie éternelle. Jésus rappelle ici que la vie chrétienne, c'est bien plus que cela. Et dans ce texte, nous lisons déjà que celui qui entrera dans le royaume des cieux, c'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu qui est dans les cieux. On entend souvent des gens dire cette expression, employer cette expression quand ils parlent, et dire « Dieu voulant ». Dieu voulant, par exemple, je viendrai au culte dimanche prochain. Un jour, une dame m'a dit cela, elle était membre de notre église, elle était une membre fidèle, et puis elle m'a dit, eh bien, à dimanche prochain, pasteur, Dieu voulant. Alors j'ai trouvé ça un petit peu amusant, mais ce que j'ai trouvé moins amusant, c'est que le dimanche d'après, visiblement, Dieu n'avait pas voulu qu'elle vienne au culte, parce qu'elle n'était pas là. Et je savais qu'elle n'était pas malade, je savais qu'elle ne travaillait pas, et que le seul empêchement qu'elle avait pu trouver, c'est qu'elle avait décidé d'aller ailleurs ce dimanche-là. Dieu voulant ne doit pas être une formule. Dieu voulant doit vouloir dire simplement, si je ne peux pas venir, si je ne suis pas là, c'est parce qu'il y a eu un événement indépendant de ma volonté qui a fait en sorte que j'ai été dans l'incapacité totale de faire la chose que je dis. C'est pour cela qu'il faut éviter d'employer certaines expressions pour pouvoir, comme pour se garantir en cas de difficulté ou de difficulté qui n'est pas très importante. En regardant la réalité sous un autre angle, on constate que la vie du chrétien est très riche de décisions qu'il doit prendre pendant sa marche avec Dieu. Il y a toutes sortes de décisions que nous découvrons dans la vie et que nous devons prendre et qui n'ont pas forcément toutes une influence très grande sur la suite des événements de notre vie. Si par exemple on se dit que, si on prend l'exemple de Martin Luther un jour on lui a demandé, alors qu'il était moine, il travaillait, il enseignait la Bible dans un monastère, et puis un jour on lui a dit, Martin, à la rentrée, tu enseigneras l'épître aux Romains, ce que Luther n'avait jamais enseigné. Mais l'histoire nous raconte que cette décision qui avait été prise par un supérieur hiérarchique de lui confier cet enseignement précis, quand Luther s'est mis à étudier l'épître aux Romains, il a découvert quelque chose dont il n'avait pas pris conscience jusque-là, c'était que le salut de l'homme vient uniquement par la foi dans l'œuvre de Jésus. Et cela a été une véritable révolution, puisqu'à partir de ce moment-là, s'est mis en mouvement ce que l'on appelle aujourd'hui la réforme protestante au XVIe siècle. Il y a bien sûr des décisions moins importantes. Un jour, une brave chrétienne m'a dit « Pasteur, j'ai vendu ma maison et je voudrais que Dieu me montre quelle est la maison que je dois acheter maintenant. » Alors je lui ai parlé un peu en lui disant « Vous savez, Dieu nous a donné aussi une volonté, il nous a donné aussi une certaine liberté. Je ne suis pas sûr que si vous achetez telle ou telle maison, cela aura une grande importance. » Alors, je l'ai orientée carrément même vers une agence immobilière. Et elle a peut-être trouvé bizarre que je l'oriente vers une agence immobilière. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que je dise « Venez, ma sœur, nous allons prier ensemble pour que le Seigneur vous montre la maison qu'il vous a réservée dans tel quartier, de telle ville. » Je pense qu'il y a des choses que Dieu nous permet de décider tout seul. Et nous allons voir tout à l'heure qu'il y a quand même dans la Bible des lignes directrices. Dieu nous laisse une certaine liberté. Il y a des gens qui se posent la question, j'ai entendu beaucoup d'histoires, et il y avait une brave chrétienne qui disait un jour, je dois recevoir le pasteur chez moi, je lui ai demandé de me rendre visite. Et quand elle a entendu sonner à la porte, elle a su que c'était comme c'était l'heure de la visite du pasteur, elle s'est mise à prier rapidement en disant « Seigneur, dans quelle pièce veux-tu que je l'accueille ? La salle à manger ? La cuisine ? Ou le salon ?» Je crois que pour Dieu, que le pasteur soit accueilli dans telle ou telle autre pièce, cela n'a pas une grande importance. Nous avons des décisions à prendre et Dieu n'a pas besoin de nous révéler sa volonté, parce que je crois qu'il nous a aussi donné, s'il nous a fait connaître ses projets pour nous, il nous a aussi donné, en nous créant, quelque chose qui s'appelle la volonté. Il avait donné cette volonté au premier homme et à la première femme qui s'appelait Adam et Ève. Et il leur avait dit, je vous interdis de manger d'un seul arbre du jardin, mais vous pouvez manger tout le reste. Je ne sais pas combien il y avait d'autres arbres. Je pense qu'il y en avait un certain nombre, peut-être 15, 20, 30, 40. Donc ils avaient le choix entre une trentaine d'arbres, mettons 30, ils avaient le choix entre une trentaine d'arbres, et il n'y en avait qu'un seul qui était interdit. Il suffisait qu'ils utilisent leur volonté de la bonne manière pour obéir à Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé. Si Dieu demande une chose aux chrétiens, c'est avant tout qu'ils marchent avec lui. Il accorde aux chrétiens une certaine liberté dans bien des domaines. Mais son enfant doit se rappeler que pour faire vraiment la volonté de Dieu, et il ne faut pas forcément habiter dans tel ou tel immeuble, de telle rue, de telle ville, de tel pays, parce qu'on peut faire la volonté de Dieu n'importe où, à peu près n'importe où, il doit d'abord obéir au Seigneur et pratiquer son enseignement. Il doit être pour tous ceux qui l'entourent un véritable modèle. Cela, Dieu le demande à tous. Que nous habitions dans tel ou tel pays, que nous soyons hommes ou femmes, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons instruits ou pas très instruits, nous devons mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Ainsi, nous pouvons dire que le chrétien doit marcher, par exemple, dans l'amour, car tout ce que nous faisons doit d'abord être fait par amour. Jésus a dit que le plus grand commandement, c'était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire celui qui vit à côté de toi. » Ça peut être un membre de ta famille avec lequel tu vis, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin dans notre quartier. Nous devons vivre dans l'amour du prochain. Deuxièmement, Dieu demande que nous vivions dans l'intégrité. Nous avons des modèles dans la Bible comme Noé et Abraham qui, en leur temps, des temps qui n'étaient pas toujours faciles, ont marché dans l'intégrité. Dieu nous demande, par exemple, de marcher dans la foi, car, dit la Bible, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Nous devons donc lui faire confiance. Lui faire confiance, ça veut dire que lorsque nous lisons ce qui est écrit dans la Bible, nous devons croire que c'est vraiment la vérité, que Dieu a vraiment voulu que ces choses-là soient écrites, que ce qui est dit de Dieu dans la Bible est vraiment la vérité. Et puis, dernier point, nous devons marcher dans l'humilité qui doit présider à tous nos projets. Et l'humilité, comme l'explique l'apôtre Jacques, c'est que lorsque nous faisons des projets, ce qui est normal, ce qui est naturel, nos projets soient toujours soumis à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous attacher à nos projets par-dessus tout. Nous devons dire là vraiment, à bon escient, Dieu voulant, je ferai cela. Et si Dieu ne le veut pas, il trouvera un obstacle à mettre sur mon chemin. J'aimerais maintenant, non pas pour terminer, parce que ce n'est pas encore terminé, mais en deuxième partie de ce message, parler de quatre volontés spécifiques et générales pour le chrétien aujourd'hui, qui sont exprimées d'une manière claire dans la Bible. Premièrement, et je dis de manière claire, parce que nous avons l'expression dans ces quatre cas, Dieu veut. Dieu veut que. Alors, que veut Dieu ? Dans 1 Timothée 2,4, je lis ces paroles. 1 Timothée 2,4, il est écrit « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est clair, c'est écrit. Nous n'avons pas besoin de nous poser la question. Qu'est-ce que Dieu veut ? Eh bien, première réponse, cet après-midi, il y en aura quatre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Cela veut dire que je dois vivre d'une manière telle à contribuer à l'accomplissement de cette volonté de Dieu pour l'homme. C'est pour cela que Jésus est venu sur terre. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix, avant que Dieu ne le ressuscite d'entre les morts. Cela signifie également, et sans l'ombre d'un doute, que les chrétiens doivent se consacrer pendant le temps qu'ils passent sur terre, pendant leur vie sur terre, à la proclamation d'une manière ou d'une autre de l'Évangile. Le but de notre vie doit être que tous les hommes, ça doit être de contribuer autant que nous pouvons le faire à ce que tous les hommes entendent parler de l'amour de Jésus afin d'en faire l'expérience. Cela signifie aussi que les chrétiens doivent tout faire pour que les non-convertis, les non-chrétiens qui entendent l'Évangile le croient. Et cela sous-entend que pour que les non-chrétiens qui entendent l'Évangile le croient, ils doivent avoir devant eux, j'allais dire des spécimens ou des spéciwomen, qui vont leur démontrer ce qu'est l'Évangile mis en action, pratiqué. J'ouvre une parenthèse. L'un des facteurs majeurs qui a contribué à ma propre conversion, ça a été l'exemple de mes parents, qui étaient déjà chrétiens avant que je ne sois né, et que j'ai vu vivre en vrai chrétien, sous mes yeux, au quotidien, pendant des années. Ça sous-entendait que mes parents, par exemple, ne m'ont jamais menti. Ils m'ont toujours parlé de Dieu comme du Dieu de la Bible. Ils m'ont raconté ce que Dieu avait fait pour eux avant même que je sois né, puisqu'ils s'étaient convertis plusieurs années avant. Et je les ai vus prier, je les ai vus lire la Bible, et j'ai vu qu'ils se comportaient comme de véritables chrétiens. Ça a été un des facteurs majeurs dans ma conversion. Si, par exemple, mes parents m'avaient emmené à l'église régulièrement et que pendant la semaine, ils mentaient, ils trichaient et ils faisaient toutes sortes de choses contraires à l'Évangile, pensez-vous un instant que j'aurais cru que Jésus est vraiment la vérité ? Je me suis dit, si c'est comme cela que les soi-disant chrétiens se comportent, c'est peut-être mieux de chercher ailleurs la vérité. C'est pour cela que je dis, si Dieu manifeste, exprime sa volonté très clairement dans ce texte de 1 Timothée 2,4, en disant, Dieu veut, je veux que tous les hommes soient sauvés. Cela veut dire aussi que Dieu n'est pas un obstacle sur la voie de leur salut. Cela veut dire qu'on ne doit pas accuser Dieu parfois de telle ou telle catastrophe qui non seulement empêche les gens de s'approcher de Dieu, mais qui les pousse parfois à se révolter et à se dire « Mais comment un Dieu juste et bon peut-il permettre de telles choses ?» Si le texte ici dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés », c'est qu'il fait tout ce qu'il peut pour que les hommes le soient. Donc, notre part est importante. Notre témoignage ne consiste pas seulement en nos paroles, à savoir à dire que nous sommes chrétiens, mais surtout, notre témoignage consiste en une vie vécue conformément à l'enseignement de Jésus devant les autres. Deuxième texte, 1 Thessaloniciens 4, 3, dit ceci. Un peu plus haut, l'apôtre Paul dit « Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. Progressez encore. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Alors c'est un mot, un grand mot, sanctification. Être sanctifié, être saint, ce sont des mots de la même famille. Quand il est dit « Dieu veut que tous les chrétiens soient sanctifiés », cela veut dire « Dieu veut que les chrétiens prennent conscience du fait que Dieu, que Jésus les a rachetés par son sang, par son sacrifice sur la croix, ils ne s'appartiennent plus, nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. » Dans le temps, à l'époque de l'apôtre Paul, il y en a peut-être encore quelques-uns malheureusement aujourd'hui, il y avait de nombreux esclaves dans la société. On raconte même que dans l'Empire romain, à l'époque, dans bien des régions de l'Empire romain, à l'époque de Jésus et de Paul, il y avait 2/3 d'esclaves sur tout l'ensemble de la population. 2 personnes sur 3 étaient esclaves. 1 personne sur 3 était libre. Et pour finir le tableau, seuls les hommes, donc les hommes libres, avaient droit de décider quoi que ce soit. C'était la société de l'époque. Et lorsqu'il y avait un esclave, cet esclave était, dans un certain sens, sanctifié dans le sens où il était réservé à l'usage exclusif de son maître. Un esclave était un homme ou une femme qui n'avait qu'une seule fonction dans la vie, servir son maître. Et l'apôtre Paul dit souvent que lui-même est esclave de Jésus-Christ. Cela veut dire tout simplement que la sanctification, c'est le fait d'être réservé à Dieu. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que puisque Jésus nous a rachetés, maintenant nous appartenons à Jésus-Christ. Notre vie doit être vécue comme un service que nous rendons à Jésus-Christ, comme un service continuel de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sur cette terre pour jouir des joies de la vie, même si les joies que Dieu nous donne dans la vie avec lui font partie du décor, font partie du programme. Mais nous sommes sur terre pour représenter Dieu auprès de ceux que nous côtoyons. Nous ne vivons plus la vie que nous menions auparavant, selon nos désirs, nos décisions, nos projets, nos rêves. Nous pouvons continuer à rêver, mais nous allons rêver les rêves de Dieu pour nous. Et croyez-moi, ils ont tous les aspects du vrai rêve, ces rêves-là. Le texte que nous avons lu dans Romains au chapitre 12 nous en parle de manière très concrète, très claire, lorsque l'apôtre Paul dit ceci. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par l'intelligence renouvelée pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons, puisque nous appartenons à Christ, nous devons maintenant nous offrir tous les jours à lui en disant « Seigneur, je t'appartiens, je suis à ton service, que veux-tu faire de moi ?» Alors, certains jours, il suffira de vivre la vie normale, d'aller à l'école, d'aller au travail, d'aller là où nous allons tous les jours dans notre occupation quotidienne, mais de nous rappeler simplement que nous sommes des chrétiens et que nous devons nous comporter comme des chrétiens là où nous sommes, auprès de nos collègues de travail, auprès de notre famille, dans notre voisinage. Quand nous parlons de volonté de Dieu pour tous, nous disons qu'il se dégage de la parole de Dieu un fait, c'est que Dieu veut que tous ses enfants vivent d'une certaine manière. Alors Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu veut que ses enfants lui soient réservés. Il veut que ses enfants se sanctifient. C'est le sens de ce mot qui peut paraître un petit peu difficile à comprendre. Troisième point, Dieu veut que tous les hommes, une fois sauvés, deviennent des disciples. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus prononce ces paroles avant de remonter au ciel, à la fin de l'évangile. Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Par cette parole, Jésus montre, parce que c'est un ordre qu'il donne à ses disciples et aux croyants, il montre qu'il veut que non seulement nous devenions croyants, mais qu'en même temps, nous devenions des disciples. Certains, des fois, se demandent, qu'est-ce qu'un disciple ? Un disciple, c'est tout simplement un homme, une femme, qui a fait une expérience avec Dieu et qui décide de le suivre. Un disciple, le mot disciple vient d'un mot latin qui veut dire étudiant, écolier. Et donc, quand Dieu dit qu'il veut que tous les croyants deviennent des disciples, cela veut dire que nous ne devons pas nous contenter de croire, mais nous devons aussi être comme des étudiants, des écoliers qui apprennent. En fait, nous sommes toute notre vie à l'école de Dieu. Toute notre vie, nous sommes à l'école de Dieu. Et nous devons apprendre. Le disciple, c'est un croyant qui comprend qu'il est conscient de son besoin d'apprendre et de progresser. Tout chrétien est appelé tout au long de sa vie à faire des expériences avec Dieu et à découvrir que l'enseignement qui est contenu dans la Bible est un enseignement qui va le faire progresser. L'enseignement que nous recevons de Christ et qui nous aide à, par exemple, acquérir le Saint-Esprit, nous permet de progresser et de nous laisser transformer par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Devenir un disciple, c'est reconnaître l'existence du Maître et notre besoin constant d'écouter son enseignement. Devenir un disciple, c'est reconnaître le besoin que nous avons d'évoluer, de changer, de nous laisser transformer par l'Esprit qui vit en nous. Donc, quand Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit « Allez, prêchez l'Évangile dans le monde entier et faites de tous les peuples des disciples », cela veut dire que nous devons non seulement devenir des disciples, mais aider les autres personnes qui s'approchent de Dieu et qui croient en lui à devenir eux-mêmes des disciples. Dernier point, quatrième chose, donc Dieu veut, première chose, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Deuxième point, Dieu veut que nous soyons sanctifiés, donc réservés pour Dieu. Troisième point, Dieu veut qu'une fois sauvés, nous devenions des disciples. Dernier point, Dieu veut que tous les disciples soient remplis du Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens au chapitre 5, versets 17 et 18. Il dit « Ne vous enivrez pas de vin », c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Christ a fait une promesse à ses disciples avant de les quitter. Il leur a fait savoir qu'après son départ au ciel, ils devraient compter sur la présence du Saint-Esprit dans leur vie pour pouvoir accomplir son œuvre. Dieu nous a fait savoir que la première nécessité pour le chrétien, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, comme le montre le livre des Actes. Parce que Dieu sait que vivre en chrétien dans ce monde n'est pas facile. Vivre comme un véritable chrétien dans la société d'aujourd'hui, comme celle d'hier, ce n'est pas facile. Le monde n'est pas, par principe, favorable à l'Évangile. Il peut même lui devenir particulièrement hostile. Dans certains pays du monde, par exemple, les chrétiens aujourd'hui sont persécutés. Certains sont jetés en prison. D'autres sont martyrisés, d'autres sont mis à mort. Et leurs biens ne sont pas confisqués, mais parfois on entend dire que des maisons de chrétiens ou des églises ont été brûlées, ou on les a fait exploser. Donc, ce n'est pas le cas partout, pas dans nos pays aujourd'hui, mais dans les pays où nous vivons, en France par exemple, et dans d'autres pays aux alentours. Mais les chrétiens sont parfois persécutés. Il est difficile de vivre ces choses-là si l'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit à plusieurs reprises. C'est ce que nous lisons dans le livre des Actes. Mais la Bible montre que le but de Dieu, c'est que ses enfants soient toujours remplis du Saint-Esprit. Nous voyons dans le livre des Actes des apôtres que, parce qu'ils ont été remplis et conduits par le Saint-Esprit, les apôtres ont pu réaliser tout le plan de Dieu dans leur vie. Ils ont pu conquérir, d'une certaine manière, le monde de leur époque, la société de leur époque. À certains moments de l'histoire de l'Église, pendant le premier siècle, il y avait des pourcentages de conversion qui étaient importants. À Jérusalem, nous lisons dans le livre des Actes des apôtres que des dizaines de milliers de personnes s'étaient converties et suivaient Jésus. Le seul jour de la Pentecôte, plus de 3000 hommes se sont convertis. Et tout cela, c'est tout simplement parce que Dieu les avait remplis de son Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vivait en eux et il occupait toute leur vie. Voilà donc la volonté de Dieu. Alors, je résume en terminant. Dieu n'a pas forcément une volonté précise pour chacune des décisions de notre vie. Il nous a donné une intelligence. Il nous a donné une certaine sagesse. Et si nous en voulons plus, il nous en donnera plus. Dieu nous a donné la capacité de raisonner et de prendre des décisions. Il pourra peut-être intervenir dans certaines situations, comme nous le voyons dans la Bible. Dieu est intervenu dans certaines situations pour donner des directions précises à des moments particuliers, à des tournants cruciaux de la vie de ses enfants. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Mais le reste du temps, il nous demande par-dessus tout de vivre en mettant en pratique son enseignement, dans tous les détails de son enseignement. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous avons dit, nous devons vivre dans l'amour, dans l'intégrité, dans la foi en Dieu et dans l'humilité, en mettant en pratique son enseignement. En vivant de telle sorte que tous ceux qui nous entourent puissent avoir l'occasion d'être sauvés en nous voyant vivre pour Dieu. La volonté suprême de Dieu, ce n'est pas que nous lui demandions chaque matin en nous levant ce qu'il veut que nous fassions de précis pendant la journée, parce que nous avons déjà des programmes préétablis. Si nous étudions, il faut aller à l'école. Si nous travaillons, il faut aller au travail. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Au temps de Jésus, les gens travaillaient. Les chrétiens travaillaient. Mais les chrétiens ne se demandaient pas le matin, ils ne se réunissaient pas dans des réunions de prière, par exemple, et demandaient à Dieu, « Seigneur, est-ce que tu veux que nous allions au travail aujourd'hui ? Ou est-ce que tu veux que nous restions à la maison pour lire ta parole et prier ?» Non, ils ne se posaient même pas la question. Ils allaient au travail et ils disaient « Seigneur, accompagne-nous. Et si nous rencontrons quelqu'un qui a besoin de toi sur notre lieu de travail, aide-nous à lui parler de toi. » Aide-nous à rendre un bon témoignage partout où nous allons. Il y a donc plein de décisions que nous devons prendre nous-mêmes et que Dieu nous conduise et nous aide surtout à vivre d'une manière qui lui plaise, que son nom soit béni.